Bon, nous merci d'être ici. Nous remercions la librairie Mola de nous recevoir, vous tous qui êtes ici. Nous remercions notre éditeur qui nous a permis l'aventure des images de pensée. Si nous voulions un peu commencer par une provocation, nous dirions que les images de pensée n'existent pas. Nous ne nous sommes pas dit un beau matin, tiens, si on cherchait des images de pensée. C'est un sujet de recherche, et comme tout sujet de recherche, il n'est pas sorti tout armé de notre tête. On a beaucoup fréquenté le doute, l'incertitude. Encore maintenant, alors que nous sommes les spécialistes dans le monde des images de pensée, on se rend compte que ces images n'acquièrent ce statut qu'au bout d'une longue introspection. Encore maintenant, quand nous rencontrons, Marie-Aude ou moi, une image de pensée, nous nous demandons si c'est une image de pensée. Quand nous rencontrons quelque chose qui pourrait ressembler à une image de pensée, nous nous demandons, est-ce vraiment une image de pensée ? Comme si c'était plus facile de dire ce que n'est pas une image de pensée plutôt que ce qu'elle est. Comme tout sujet de recherche, en fait, comme tout sujet de recherche, nous sommes partis avec presque rien. Alors, pour arriver à saisir leur essence, il nous faut faire un long chemin, presque initiatique, tamiser, retamiser, un peu comme les chercheurs d'or, pour savoir si la pépite est une image de pensée. Alors, on est descendu dans cette mine, et on s'y est un petit peu perdu, comme aussi dans toute recherche. Alors, pourquoi nous avons appelé ces images de pensée du titre de Walter Benjamin, puisque c'est un titre d'un ouvrage de Walter Benjamin, qui lui-même l'avait emprunté au poète Stéphane George, nous pourrions garder comme parenté le principe de condensateur, où chaque image de pensée est un éventail replié qui ne respire que dans le déploiement. L'image de pensée est une chose condensée. C'est le jaillissement de la pensée. C'est arriver à saisir à quel moment la pensée vient à celui qui la dessine parce qu'elle est trop intense pour être écrite. L'image de pensée, je ne dirais pas qu'elle remplace l'écriture, mais elle est tellement intense, les faisceaux sont si complexes à un moment donné qu'il faut, pour retenir ce qu'il traverse la tête, le cerveau, il faut le dessiner. Alors, quelle était la première image de... Enfin, quel était ce que nous avons appelé ensuite image de pensée ? Quelle était la première image ?
Donc, bonjour, bonsoir plutôt. La première image a été l'image de la place de la sexualité dans la mélancolie, en fait, de Freud. C'est une carte postale que nous avons reçue d'un ami qui est allé au musée de Freud à Vienne. Et nous avons été un peu fascinés par cette image et nous nous sommes posé la question de son statut. Donc quel était le statut de cette image, quel était son objet, quelle était sa fonction. Et c'est à partir de cette image en fait, de Freud que nous avons tenté de trouver des équivalents, des similaires. Donc nous nous sommes... parfois perdu, comme l'a dit Nicole, nous sommes beaucoup engouffrés dans la cartographie, dans certaines représentations formelles, dans certains courants artistiques, etc. Mais quelque chose, en fait, on n'arrivait pas à retenir cette chose, à trouver des enjeux similaires. Donc, nous avons tous affronté des images où il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour comprendre ce qui s'y cache, ce que l'auteur a voulu en dire. Donc on sent qu'il y a une obscurité, une résistance. Et bien donc c'est cette résistance que nous avons voulu vaincre en fait dans ce texte et dans ce travail. Nous avons parcouru, reparcouru cette carte postale, ce tracé mystérieux semé de mots allemands, langue qu'aucune de nous deux ne parle, avec l'intuition initiale en fait que quelque chose se cachait là et qu'il nous appartenait de découvrir. Donc, après de multiples circonvolutions, nous avons tenté une définition de ce qu'est une image de pensée. Donc, c'est une tentative par le dessin pour des gens qui ne sont pas spécialement dessinateurs, de saisir la pensée à plusieurs moments, à son surgissement, quand elle est dans une impasse ou quand elle est dans un bouillonnement. Et parfois même, l'auteur, après avoir déployé sa pensée, il estime nécessaire de ramasser sa théorie dans une figure unique, une manière étrange de vérifier la pertinence de son système. Brouillon, croquis, graffiti, griffonnage ne sont pas systématiquement des images de pensée. On peut même dire que ces types ne le sont qu'exceptionnellement. Pour qu'une image prenne le statut d'image de pensée, il faut c'est vraiment impératif. D'abord, c'est une nécessité. On n'est pas dans des griffonnages de téléphone, par exemple. Il faut donc, dans sa représentation, qu'elle fasse système, qu'elle permette à celui qui la crée de relier des éléments qui auparavant ne l'étaient pas. Par système, donc, il faut entendre qu'il y a des exigences formelles de relations entre des signes présents dans l'image.
Oui, parce que les images, il y a beaucoup d'images. Les images, nous voyons tous beaucoup d'images défiler sous nos yeux. Et ce que nous voulions, justement, c'est de saisir dans une globalité une pensée. La globalité de la pensée, c'est difficile à dire. Ce que nous voulions montrer aussi, surtout ce que nous voulions montrer, c'est qu'elles sont dans tous les champs du savoir. Il n'y a pas un champ dont on pourrait dire qu'il n'y a pas d'image de pensée. Peut-être qu'on ne les a pas trouvées. Mais de la botanique aux mathématiques, en passant par l'art, la musique, il y a des images de pensée. Encore une fois, nous les avons pas, nous avons peut-être pas trouvé, mais ce que nous souhaiterions faire, c'est pouvoir lire des typologies peut-être d'images, mais pour ce faire, il nous faudrait avoir beaucoup plus d'images dans un même champ. Par exemple, dans le champ des mathématiques, à une certaine époque des mathématiques, peut-on voir dans les images de pensée des mathématiciens des constantes qui nous permettraient de tirer des fils pour expliciter des typologies d'images dans un champ ou dans une époque. Là, nous avons fait un survol, nous avons encore voulu faire cette démonstration de cette présence des images de pensée dans tous les siècles, dans tous les champs. Donc c'est pour ça qu'elles sont présentées comme ça, et d'ailleurs elles sont présentées de façon aléatoire aussi dans le livre. Nous n'avons pas voulu les classer, elles sont présentées comme des pépites qui sortent sur le... Ah. Alors on voulait rajouter quelque chose, c'est que ces images, elles ne sont pas faites pour être vues. Aucune de ces images... Presque aucune de ces images n'est démonstrative. Ce sont des images qui sont faites pour soi. L'auteur les fait pour lui-même, encore une fois, pour éclairer sa pensée. Mais elles n'ont pas vocation à être vues. Elles n'ont pas de vocation esthétique non plus, même quand Klee dessine le diagramme du Bauhaus ou Kentridge dessine le parcours de l'atelier. Le but n'est pas du tout de montrer quelque chose d'esthétique ou qui serait vu. C'est pour eux-mêmes. C'est du soi à soi.
Donc peut-être rajouter effectivement que chaque discipline, chaque champ du savoir possède son langage propre, parfois technique, le théorème en mathématiques, le concept en philosophie, et que quelque chose les sépare ensuite. Or, il existe, ce que nous avons tenté de montrer, c'est qu'il existe antérieurement à cette technicité du langage, il existe un langage commun. Ce langage commun n'a aucun code, n'est pas normé. Chacun fait comme il peut, avec les moyens du bord. Et donc, l'image de pensée, Même si c'est une nécessité, elle a quand même en fait des fonctions importantes. Elle permet en fait de s'émanciper des codes de sa discipline, non pas pour représenter le monde tel qu'il est, mais bien en fait comment pour s'attaquer à une réalité qui n'est pas encore advenue en fait. Donc c'est très important de comprendre que l'image de pensée, son intention en fait, sa fonction, c'est un outil au service d'un bouillonnement intellectuel qu'on a, que l'auteur a beaucoup de mal à circonscrire. Comment certains parlent, Valérie par exemple parle d'un escargot mental, d'autres en fait parlent de nœuds, chez Deleuze on trouvera le terme de diagramme. Donc on a cette matière commune en fait, commune à l'homme, que l'humain, commune à tout homme qui pense, et peut-être est-ce un enjeu anthropologique en fait, comment peut-être que le monde a été construit comme tel. Donc avant en fait que la pensée soit totalement élaborée, prise en fait par les jeux techniciens en fait de sa langue ou de sa discipline, il existe cette production. Voilà, qui appartient à tout un chacun, qui ne fait l'objet d'aucune discrimination et que chacun en fait produit avec ce qu'il possède en fait pour représenter. Darwin par exemple déplore en fait de ne pas savoir dessiner et il explique dans ses lettres que s'il avait su dessiner, il aurait pu aller beaucoup plus loin en fait dans sa propre pensée. Donc, c'est important de saisir en fait que l'image de pensée n'a aucune vocation esthétique, elle n'obéit à aucune norme préétablie, il n'y a pas d'intention formelle chez les auteurs, même chez les artistes. Chaque figure est unique, elle n'a pas de suivant, elle n'a pas de précédent, sa construction en fait elle est vraiment contemporaine de ce qu'elle est censée saisir au moment où ça se passe en fait. Donc elle n'a pas non plus de vocation définitive en fait. On peut revenir dessus l'auteur qui l'a produit n'est pas attaché à cette image plus que ça. Donc elle est contemporaine du moment où la pensée est saisie, où elle est expulsée du cerveau, et elle est là, la pensée répandue dans le tracé. Et donc ce qui est assez fascinant en fait dans cette image, là où on est submergé d'images qui produisent en fait un sens immédiat, immédiatement compréhensible, immédiatement acceptable. Le paradoxe en fait de cette image de pensée, c'est qu'à la fois sa fonction, c'est de permettre à celui qui l'a produit, à son auteur, d'éclaircir sa propre activité mentale. Et quand on la regarde, on plonge en fait dans les abysses, puisqu'on est incapable en fait d'en saisir la quintessence en fait, puisqu'elle appartient en propre à celui qui l'a produit.
Et d'autant plus difficile à saisir, c'est que les auteurs disent très peu de choses sur leurs images de pensée. Quand il a fallu trouver des légendes à ces images de pensée, quand nous les avons trouvées, même ces images, il était très très difficile de savoir ce que l'auteur en pensait. Nous avons dû chercher des cartes, par exemple, dont l'image nous a beaucoup fascinés. Nous avons découvert, par exemple, quand on nous dit « image de Descartes », que Descartes n'a jamais dessiné. Enfin, que les images plutôt que nous voyons de Descartes, qui étaient annoncées comme dessinées par Descartes, n'étaient pas dessinées par Descartes. Descartes dessine des brouillons. Descartes écrit au père Mersenne et lui dit d'ailleurs que cette lettre aura beaucoup de fautes d'orthographe et beaucoup d'imprécisions, etc. Et qu'il lui demande de trouver le bon graveur qui va graver ces images. Donc, bon, Descartes dit quelque chose sur le côté technique de l'image, mais il ne dit rien, sinon, évidemment, philosophiquement, il l'explicite. Mais sur l'image que nous trouvions chaque fois, il y avait très très peu de choses. Très peu de choses. Donc il a fallu chercher dans la périphérie de leur œuvre, au moment où ça se situait, mais sur la chose elle-même, et c'est là, pour rebondir sur ce que dit Marie-Aude, où on voit bien que c'est du soi pour soi et que c'est conçu pas du tout dans la fonction d'être vu, mais de saisir cette pensée, c'est qu'ils n'en disent rien. Après, par exemple, le schéma de la mélancolie de Freud, la sexualité dans la mélancolie. Freud va déployer sa théorie, bien sûr, en peut-être 250 pages, mais sur l'image, on ne peut pas dire que Freud va nous décrire l'image. Aucun, presque, sauf Kentridge, qui, dans ce parcours d'atelier, dit que c'est un petit théâtre minuscule qu'il est obligé de, parcourir avant de se mettre à peindre ou à dessiner. Il met une feuille sur le mur et il parcourt, il marche beaucoup dans son atelier. Il dit qu'il a besoin de ce théâtre minuscule avant de se lancer, avant de dessiner ou de peindre dans une œuvre. Mais c'est très rare que l'auteur, par exemple pour Klee, on a cherché désespérément ce que voulait dire le diagramme du Bauhaus, où nous étions fascinés avec Marie-Aude parce qu'il y avait un petit drapeau et un petit pied d'une map monde. Nous avons interprété que c'était une map monde, c'était peut-être tout sauf une map monde. Et en haut, il y avait propagande et
édition.
On a cherché quelle avait été la participation de Klee au Bauhaus dans l'édition, dans la propagande. On n'a rien trouvé, même en le resituant à l'époque. Donc, encore une fois, ces images, elles resteront toujours mystérieuses. Enfin, même si nous les étudions pendant des heures et des heures, et c'est ce qui fait leur charme et leur force, beaucoup resteront à jamais mystérieuses, à jamais indéchiffrables.
Oui, en fait, pour essayer de tenter de comprendre ce qui se jouait là, nous avons tenté de mettre en place des processus de classement pour voir si quelque chose émergeait, en fait. Donc, on a classé par discipline. Ensuite, nous avons classé par siècle. Ensuite, nous avons classé par forme. Nous sommes lancés dans une grande liste des formes. Voilà. Est-ce que le 19e, par exemple, générait des cercles plus que le 20e? Est-ce que le 20e générait des choses plus éclatées que ne l'a fait le 18e, etc., etc. Donc rien de vraiment intéressant à vous raconter sur ces questions. Ni le classement en siècle, ni le classement en forme, ni le classement par discipline ne nous a permis vraiment de produire en fait des règles qui auraient été qui nous auraient permis de dire en fonction de sa discipline on fait plutôt ça, en fonction de son siècle on produit plutôt ça. Donc à la fois, donc c'est ce que vous disiez Nicole tout à l'heure, à la fois sans doute nous n'en avons pas récolté assez pour produire en fait une règle, et en même temps peut-être que la réponse est que il n'y a pas de règle à chercher en fait, et qu'il n'y a pas de normes concernant en fait ces images qu'elles produisent en fonction de tellement de critères différents qu'il en est impossible en fait de cerner une essence, voilà.
La seule chose qui nous a frappé, par exemple, au XIXe siècle, il y a énormément dans les sciences, il y a énormément de représentations, et ces représentations sont des accélérateurs de la pensée, car il y a une lutte entre les scientifiques pour représenter leur pensée. Lamarck, Darwin, les ornithologues anglais, on s'est rendu compte là qu'il y avait une grande lutte dans le temps pour asseoir la pensée dans des schémas et dans des représentations, et que ça avait pour effet de, sans doute, accélérer la pensée. Par exemple, on a découvert que les ornithologues anglais, évidemment, pour l'ornithologie, il faut bien représenter les oiseaux dans l'espace, on est obligé de les représenter avec des schémas, on s'est rendu compte qu'il y avait là une lutte entre ces ornithologues pour le premier qui allait représenter sous cette forme ou sous une autre. Et il y a des inventions de formes. On se rend compte qu'il y a, à ce moment-là, des formes qui se créent dans cette volonté de représenter. Mais encore une fois, ce ne sont pas des dessinateurs. Darwin n'était pas un dessinateur, Lamarck encore moins. Je ne sais pas pourquoi je dis moins, mais enfin, Lamarck, moins. Je pense, n'était pas un grand dessinateur. Et ils s'influencent les uns les autres. Par exemple, Darwin découvre la représentation de Lamarck, qui lui-même fait une chose très mystérieuse, se tient entre deux représentations classiques, l'arbre et le filet, Et il met des points entre ces deux représentations classiques, son originalité, c'est l'hybridité de ces deux représentations. Et Darwin découvre ces points et est fasciné par ces points. Donc Darwin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une image qui l'a beaucoup marqué lui-même, revenant de son tour du monde, c'est une algue pétrifiée qui est un corail. Donc il reste avec cette image sans doute de ce corail et il rencontre les points de Lamarck. Et sa première représentation de l'évolution des espèces va être justement un mélange de ces points de Lamarck et de ce corail. Comment tout ça s'imbrique, on ne sait pas. Mais les deux images vont se joindre. On pense aussi que quand même chacun a peut-être des réminiscences d'une image. Moi, j'étais très frappée par l'image d'Henri Langlois qui crée la Cinémathèque. D'abord, elle est très intéressante, cette image, parce qu'il crée une institution. Langlois crée une institution. Nous, ça nous fait penser un petit peu aux représentations du cœur. Il le fait avec un crayon bicolore rouge et noir, rouge et bleu. Et il a 20 ans. Il faut savoir que Langlois crée à 20 ans cette représentation de ce que sera la Cinémathèque. Sans doute, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, mais Langlois a-t-il peut-être des bribes, des réminiscences de formes qui le font aller vers cette image? On ne sait pas comment sont composées ces images. Comme ce ne sont pas des dessinateurs, ils ne viennent d'aucun champ du dessin, enfin, même ceux qui sont des artistes, dans les images qu'on choisit, on ne voit pas du tout que ce sont des artistes. Donc, comment l'image vient-elle? Non seulement la pensée, mais comment la forme vient-elle à l'esprit, ça reste un mystère. Pas pour nous.
Donc, qu'est-ce qui a été peut-être pour finir, ce qui a été le plus compliqué dans ce travail? Bien sûr, nous avons parcouru des disciplines très différentes, dont certaines étaient totalement inconnues de nous, parcouru des siècles. Un peu à la manière en fait de la ritournelle chapeau de paille, paillasson, somnambule. Alors on s'est un peu comporté comme des bouvards et pécuchés en jupon en fait. voilà, il a fallu parfois qu'on s'aide en fait de spécialistes pour détecter si par exemple dans cette image mathématique on avait vraiment affaire à une image de pensée ou bien c'était tout simplement une production classique que pouvaient former les mathématiques. Donc on peut dire qu'il y a eu deux enjeux importants. D'abord le domaine de l'art, qui produit énormément d'images, et notamment des images où il se fascine pour des brouillons. Donc on a mis de côté l'ensemble en fait, de ces images parce qu'elles avaient un point de vue formel, uniquement en fait, sur le brouillon. Et puis toutes ces disciplines assez incroyables dans lesquelles on s'est parfois épuisé. Et donc il a fallu absolument qu'on s'arme de spécialistes en fait, pour nous décrypter les images que sont les mathématiques, la physique, etc. Donc l'enjeu a été à la fois de cerner en fait les frontières de cette image de pensée, mais aussi de rentrer tous les jours dans des domaines qui étaient très très éloignés en fait de nos compétences.
Et de projeter, on a beaucoup projeté, parce que comment savoir que X ou Y a dessiné une image de pensée? Donc on a été aussi un peu au hasard, on a été aussi un peu avec nos passions, Mario et moi. On a eu des auteurs qui nous ont fascinés et on a voulu à tout prix qu'il y ait une image de pensée. Donc là, on a pu chercher pendant des jours et des jours et des internets, parce qu'on voulait absolument, ils n'en avaient pas fait, ou ils ne nous répondaient pas, ou ils ne nous... Voilà, donc on a eu aussi des frustrations avec ces images de pensée, et puis des merveilleuses récompenses, des auteurs que nous ne connaissions pas, qui ont accepté d'être dans ce livre. Donc on a eu, c'était une très belle aventure, il faut bien dire, une très belle aventure. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter ?
C'est pas mal de finir sur une... Ce fut une très belle aventure.
Ceci est une très belle aventure. Non, on voulait vous raconter une image de pensée. Mario disait tout à l'heure que nous n'étions pas des spécialistes. Bien sûr, on était loin d'être des spécialistes, ni en biologie, ni en mathématiques. Mais justement, en biologie, nous parlons à un mathématicien un jour qui nous avait aidés pour des images. Et on lui dit, c'est dommage que nous n'ayons pas de représentation. Oui, parce que ce que nous ne vous avons pas dit, c'est que nous cherchions la première image. La première image. Dans les archives, qu'elles soient françaises, américaines, anglaises, on cherchait toujours à Alfred Barr, par exemple, qui a dessiné ce schéma pour une exposition sur le cubisme et l'art abstrait. On voulait la première image. Et on dit à un ami, ou à un mathématicien, c'est dommage que l'ADN, que le chaînage de l'ADN, on n'ait pas une première image de Watson et Crick. Et il nous dit, mais c'est pas Watson et Crick, c'est Rosalind Franklin. Ah bon, c'est Rosalind Franklin ? Il nous dit, oui, enfin, en même temps que Watson et Crick, il y avait une jeune chercheuse qui s'appelait Rosalind Franklin et qui a trouvé le chaînage de l'ADN. On revient à la maison, on cherche chacune, Rosalind Franklin, etc. On découvre qu'elle est morte. Alors, elle est morte une année avant le Nobel de physique pour Watson et Crick. Et on cherche, on découvre que ses archives, ses carnets étaient à la Churchill Archives. Donc, on écrit, etc. On nous dit que les carnets sont en ligne. On fait appel à une amie biologiste, on lui fait déchiffrer les carnets, on trouve le chaînage de l'ADN. On trouve vraiment l'image qui est le chaînage. Et alors la grande déception, parce qu'on ne nous autorise pas, on n'a jamais compris pourquoi, on ne nous a pas autorisé à reproduire cette image qui est aux yeux de tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'a qu'à regarder les carnets de Rosalind Franklin, on les voit. Voilà, ça c'était une grande déception, mais une grande émotion de voir que cette image si simple, avec quelques traits, était la découverte de l'ADN. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.